Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Sénégal, le délibéré du procès en appel visant le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, s'est repoussé au 21 septembre. Au Burkina Faso, 7 personnes ont été blessées lors du saccage d'une mine d'or par des orpailleurs opposés à leur expulsion des alentours du site. La Finlande et la Suède ont soumis une demande conjointe d'adhésion à l'OTAN. Moscou a annoncé l'expulsion de plus de 80 diplomates européens. Résultat de certaines élections primaires américaines pour la désignation des candidats aux élections de mi-mandat. Et après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. Au Sénégal, la cour d'appel de Dakar a repoussé au 21 septembre son délibéré dans une affaire de meurtre datant de 2011 visant Barthélémy Diaz, maire de la capitale. Un autre rendez-vous manqué pour l'opposant alors que des législatives cruciales sont prévues en juillet. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le tribunal de Dakar, qui devait prononcer son verdict ce mercredi, était sous forte protection policière. Le maire de Dakar est jugé en appel pour la mort d'un homme tué par balle en 2011 dans un contexte de violence politique. C'était à quelques mois de la présidentielle de 2011. Barthélémy Diaz, farouche opposant au pouvoir, crie au procès politique. Il est devenu maire de Dakar pour le compte d'une coalition nationale conduite par Ousmane Sonko, un autre farouche opposant au régime du président Macky Sall. Son procès en appel a été reporté à de multiples reprises ces dernières années avant de se tenir le 2 mars dernier. Le parquet général avait requis 5 ans de prison ferme, une peine qui va certainement interrompre la carrière politique de l'opposant. Des élections législatives cruciales se tiendront le 31 juillet, à moins de 2 ans de la fin du mandat du président Macky Sall. L'opposition cherche à lui imposer une cohabitation, mais sa liste dans le département de Dakar a été rejetée par la Direction générale des élections pour non-respect de la loi sur la parité. Elle entend déposer un recours ce mercredi auprès du Conseil constitutionnel.
La police sénégalaise enquête sur des vidéos qui circulent depuis hier sur les réseaux sociaux montrant un homme malmené par une foule qui lui lance des insultes homophobes, a indiqué un policier ce mercredi. Sur ces vidéos, des dizaines d'hommes encerclent un jeune homme et le frappent. Aucune information n'a été donnée sur son sort. Une investigation numérique montre que les vidéos visionnées des milliers de fois sont récentes sans pouvoir en établir la source jusqu'ici. Au Burkina Faso, 7 personnes ont été blessées. Des dizaines d'engins, véhicules et magasins ont été incendiés lors du saccage de la mine d'or de Houndé dans l'ouest du pays par des opposants à l'expulsion d'orpailleurs locaux. Rosine Mounezero nous en dit plus.
Des troubles occasionnés par des orpailleurs au sein de la société minière Houndé Gold Operation dans la province de Tui ont fait d'importants dégâts matériels et entraîné une paralysie de la ville tout entière, a indiqué un travailleur de la mine sous couvert d'anonymat. Il ajoute que les manifestants ont pris d'assaut les installations de la mine. Plus d'une centaine de véhicules et d'engins lourds ont été complètement incendiés par les manifestants. Les incidents sont fréquents sur les sites orifères burkinabés, où les populations des localités abritant ces mines estiment que les retombées pour les communautés locales sont très faibles. Par ailleurs, dans la mine de zinc de Perkoa, dans l'ouest du pays, 8 mineurs sont pris au piège depuis le 16 avril à quelques 700 mètres sous terre. Mardi, le ministre des Mines a annoncé que la deuxième chambre de refuge où les sauveteurs pensaient les retrouver était vide. Les recherches se poursuivent, mais les espoirs sont minces.
Les enquêtes menées par le Niger et la France n'ont pas permis de déterminer les circonstances de la mort de 3 manifestants lors de heurts en novembre au passage d'un convoi de l'armée française, indique le gouvernement nigérien. Le convoi militaire parti d'Abidjan pour Gao avait été bloqué et caillassé par des manifestants à Kaya au Burkina Faso et de nouveau interrompu à Téra au Niger. Lors des heurts, 3 manifestants ont été tués et 17 civils ont ont été blessés ainsi que 7 gendarmes nigériens et 7 militaires français. Paris et Niamey ont décidé d'assurer ensemble le dédommagement des familles des victimes ainsi que des blessés, souligne un communiqué du ministère nigérien de l'Intérieur. L'ancien colonel rwandais Phineas Munyarugarama, un des 5 derniers fugitifs recherchés pour leur rôle dans le génocide en 1994, est décédé à Kankuala en 2002 dans l'est de la République démocratique du Congo, ont annoncé les procureurs de l'ONU qui enquêtent sur l'affaire. Jeudi dernier, le tribunal onusien a annoncé que Protais Mpironia, recherché par la justice pour son rôle dans le génocide, était mort en 2006 au Zimbabwe. La nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Valentine Rugwabiza, a demandé ce mercredi un réajustement de la force de l'ONU pour protéger les civils. On observe des victimes d'exactions de toutes les parties du conflit dans le pays, a-t-elle déclaré lors de sa première conférence de presse à Bangui. Depuis début 2021, les forces centrafricaines et leurs alliés russes ont refoulé les rebelles d'une grande partie des territoires et villes qu'ils contrôlaient, sans être parvenus toutefois à réinstaller partout et durablement la présence et l'autorité de l'État. Et en Égypte, le tribunal pénal d'Alexandrie a condamné à la peine capitale un homme accusé d'avoir poignardé à mort le mois dernier un prêtre copte, indiquent des sources judiciaires. Poignardé le 7 avril, alors qu'il accompagnait des jeunes de sa paroisse sur la corniche de la ville côtière, le père Arsanios Wadid avait succombé à ses blessures à l'hôpital.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Poursuite de la reddition des soldats ukrainiens qui défendaient le site d'Azovstal à Mariupol. Le 84e jour de la guerre en Ukraine est marqué par la candidature conjointe officielle de la Finlande et la Suède à l'adhésion à l'OTAN et l'expulsion de dizaines de diplomates occidentaux par Moscou. Eric Manirakiza nous en dit plus.
La Russie a expulsé 34 diplomates français, 24 diplomates italiens et 27 espagnols en représailles à celles de Russes dans la foulée de l'offensive russe contre l'Ukraine. Selon les médias russes, les ambassadeurs d'Espagne et de Suède ont aussi été convoqués mercredi au ministère russe des Affaires étrangères. La Finlande et la Suède souhaitent une ratification de leur adhésion à l'OTAN la plus rapide possible. Les deux pays ont conjointement soumis mercredi leur demande d'adhésion à l'OTAN, mais la Turquie pour le moment s'oppose à leur entrée. Sur le terrain, le ministère russe de la Défense a annoncé que 959 militaires ukrainiens retranchés dans le complexe sidérurgique d'Azovstal de Mariupol se sont rendus depuis lundi. Le premier procès d'un soldat russe pour crime de guerre s'est ouvert mercredi à Kiev. Vadim Chichimarin, 21 ans, a plaidé coupable d'avoir abattu un civil ukrainien non armé. Les institutions internationales mènent aussi leurs propres enquêtes sur des exactions présumées commises par les forces russes.
Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est prononcé ce mercredi pour un processus d'adhésion progressif à l'Union européenne et a défendu la création d'une communauté géopolitique européenne pour préparer les pays candidats à l'intégration. Il a annoncé avoir commencé à consulter des dirigeants des 27 sur ce sujet qu'il mettra à l'ordre du jour du Conseil de juin. L'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie ont demandé le statut de candidat et aspire à intégrer l'Union européenne comme la Turquie et 6 pays des Balkans. Ici aux États-Unis, les résultats de certaines élections primaires pour la désignation des candidats aux élections de mi-mandat ont commencé à tomber. En substance, en Pennsylvanie, le décompte des voix se poursuit, mais le sénateur Pat Brown est légèrement devancé par Jared Coleman. Le représentant de l'État Stan Saylor du comté de York talonne Wendy Jo Fink. Le représentant Keith Gillespie Pepsi est à la traîne face à Joe Dorsey, directeur des communications d'une église apostolique dans l'Idaho pour l'élection au poste de procureur général. L'ancien représentant Raul Labrador a battu Lawrence Wasdin, qui était soutenu par les républicains de l'establishment. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'économie, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Rosine Mounezero.
Au Togo, pour la saison agricole 2022-2023, la cession du sac d'engrais de 50 kg aux producteurs d'engrais est en hausse de 44%. Malgré une subvention de l'État, ce prix pourrait être très élevé pour les agriculteurs par rapport à l'année précédente. Le gouvernement évoque la conjoncture internationale pour justifier la fixation du prix du sac d'engrais. Le Togo produit du phosphate et le vend à l'étranger, mais importe ses fertilisants. Au Nigeria, le contrôleur général des finances publiques, Ahmed Idriss, a été arrêté pour son implication présumée dans une affaire de détournement de fonds d'environ 184 millions d'euros. Selon l'Agence de lutte contre la corruption, il a soutiré des fonds publics qu'il a investis dans des biens immobiliers à Abuja et dans son état natal de Kano. Ahmed Idriss n'a pas commenté ces accusations. Après l'annonce par l'Inde d'un embargo sur ses exportations de blé, un vent de folie s'est emparé cette semaine des marchés. Le cours du blé a pulvérisé son record lundi soir à 438,25 euros la tonne sur le marché européen pour une livraison rapprochée. Mardi, le blé d'hiver côté Kansas City a battu un record absolu d'une hausse de 78% depuis mi-janvier. Après cette mesure protectionniste de l'Inde, les analystes prévoient tous le maintien de prix élevés dans un marché tendu jusqu'à l'an prochain.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Cette affaire qui se poursuit, la Fédération française de football demande des explications à Idrissa Ganagay.
Oui, le conseil de l'éthique de l'instance nationale du football français demande aux joueurs sénégalais du PSG de dire s'il a refusé ou non de participer à une opération contre l'homophobie. Idrissa Ganagay doit clarifier sa situation, soit dire que les supputations sont infondées, soit faire amende honorable pour avoir refusé de porter un maillot floqué de couleur arc-en-ciel à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, selon le courrier adressé aux joueurs révélé par l'équipe. Dans son pays, le Sénégal, Ganagay bénéficie d'un soutien total. Dans un tweet, le président Macky Sall appelle au respect de ses convictions religieuses. Idem pour certains Dakarois.
Ganagay est d'origine musulmane. Dans un pays à 80% musulman, il a le droit de respecter ses principes, c'est tout. On est dans un pays démocrate. Il n'a pas signé pour porter un maillot gay et faire l'apologie de l'homosexualité.
Ils prônent leur liberté d'expression, leur liberté de choix. Il faudrait qu'ils comprennent aussi qu'il y a d'autres gens qui ne les jugent pas, qui acceptent de les côtoyer, mais qui n'adhèrent pas à leur philosophie. C'est une question de liberté, que chacun respecte l'autre. Et les choses seront assez simples. Mais aujourd'hui, si on y va au jugement de sanctionner l'autre parce qu'il n'accepte pas, ça c'est compliqué, ça va amener d'autres mots plus graves.
C'est désormais officiel. Joueurs et joueuses de l'équipe nationale américaine de football recevront le même salaire.
Et oui, la Fédération américaine de football a conclu un accord qualifié d'historique et de premier du genre avec les associations de joueurs et joueuses de ces sélections. Cet accord formalise des salaires égaux entre l'équipe féminine et l'équipe masculine selon les deux conventions collectives qui courront jusqu'en 2028. Avec 4 titres en Coupe du Monde et autant de médailles d'or aux Jeux Olympiques, le palmarès de l'équipe nationale féminine américaine est plus étoffé que celui de son homologue masculine, qui n'a jamais fait mieux qu'une troisième place en 1930.
En cyclisme, c'est une belle aventure qui s'achève tristement. Bignam Girmay abandonne le Tour d'Italie.
Oui, malheureusement, au lendemain de sa victoire lors de la 10e étape du Tour cycliste d'Italie, l'Érythréen quitte la compétition en raison d'une blessure à l'œil gauche. Le jeune cycliste de 22 ans a malencontreusement reçu dans l'œil le bouchon de la bouteille géante qu'il devait ouvrir sur le podium protocolaire. L'entourage de son équipe belge indique que le choix d'abandonner la course a été pris par prudence. Jermé est devenu mardi le premier coureur noir d'Afrique vainqueur d'une étape de Grand Tour. Il participait pour la première fois de sa carrière au Giro. Professionnel depuis 2020, il compte 8 victoires à son palmarès, dont 3 cette année. Fin mars, il est devenu le premier Africain vainqueur d'une classique.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. À Bamako, depuis 48 heures, la tentative de coup d'État fait la une des journaux et est au centre des discussions dans les lieux de rencontre. Les autorités affirment que la situation est sous contrôle et que sept officiers et sous-officiers sont aux arrêts. La population essaye de comprendre les motivations d'un tel acte, alors que la junte au pouvoir a l'habitude de vanter l'unité au sein de l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Un reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko.
Depuis l'annonce par les autorités d'une tentative de coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai dernier, que ce soit le soutien de la transition, tout comme les partis qui ne partagent pas la vision des autorités, tout le monde y est allé de son communiqué. C'est le cas de la coalition des forces patriotiques qui estime qu'il est venu le temps de mettre fin à ce coup d'État. Mahamadou Traoré, président du parti Union en Kamboulou-Dignogoma, membre de la coalition.
Au niveau de la coalition des forces patriotiques et du parti Union en Kamboulou-Dignogoma, nous condamnons avec la dernière rigueur toute tentative de coup d'État et de coup d'État. Car nous devons laisser le processus continuer pour que nous quittions les spirales des éternels recommencements de rupture de pouvoir ou de rupture de processus. Aujourd'hui, le Mali n'a nullement besoin d'un coup d'État. Nous avons besoin d'avancer et de sortir vite de cette situation transitoire.
Depuis le 18 août, le Mali a connu deux coups d'État. Un troisième, en moins de 2 ans, aurait été très difficile pour le Mali et les Maliens, estime Néné Diallo, membre du mouvement Nouveau Type de Malien.
Ça aurait été plus ignoble que celui de Amadou Alassane Ouattara contre le président Amadou Toumani Touré. Et par rapport à ça, pour les motivations de ces auteurs, on peut se poser des questions de fond. C'est par rapport à quelles revendications? Est-ce que c'est pour mettre fin à une transition, par une nouvelle transition? Ou bien c'est pour obtenir la levée de l'embargo sur le Mali?
Si Néné Diallo s'interroge sur les motivations des acteurs de ce putsch manqué pour Fousseyni Ouattara, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Héron, la vague d'arrestations depuis 2 jours dans les rangs de l'armée par rapport au détournement des fonds de la loi de programmation militaire peut être un début d'explication.
Nous pouvons faire le lien aussi entre, n'est-ce pas, le dossier de lutte contre la corruption. Vous savez que certains officiers supérieurs, n'est-ce pas, sont mêlés dans ces dossiers, n'est-ce pas, de détournement de fonds publics. Et récemment, ces officiers ont été mis aux arrêts. Donc, il va de soi que, est-ce que, n'est-ce pas, ceux qui savaient que, qui sont inculpés, n'est-ce pas, dans les dossiers de détournement et qu'ils savaient qu'ils allaient faire l'objet d'arrestation par la justice, est-ce que ceux-ci aussi ne sont pas derrière, n'est-ce pas, cette tentative de coup d'État?
Plusieurs officiers, dont l'ancien chef d'état-major sous Ibrahim Boubacar Keïta et ancien ministre de la Sécurité, le général Moussa Mbemba Keïta, ont été arrêtés. Le quotidien L'Indépendant nous apprend également qu'en plus de lui, le général Mustapha Drabo, ancien directeur du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées, est aussi aux arrêts. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM. Au Togo, pour la saison agricole 2022-2023, la cession du sac d'engrais de 50 kilos aux producteurs fait grincer des dents. Malgré une subvention de l'État, ce prix est en hausse de 44% par rapport à l'année précédente. Le gouvernement évoque la conjoncture internationale pour justifier la fixation du prix du sac d'engrais, alors que le Togo produit et exporte du phosphate. De Lomé, notre correspondant Kossi Wussou.
Pour la campagne agricole 2022-2023, les prix de cession d'un sac de 50 kg d'engrais aux paysans ont été fixés à 18 000 francs CFA. Le gouvernement fait savoir que le prix devrait être plus haut que ce qui est annoncé si l'État n'avait pas fortement subventionné le prix du sac du fertilisant. Nana Namfame, le directeur de la centrale d'achat des intrants agricoles.
Aujourd'hui, le coût de revient de ces engrais, lorsque nous partons depuis l'achat jusqu'au niveau du producteur, nous sommes à un niveau de 31 000 francs le sac de 50 kilos. Et donc, lorsque on fait la somme de tout ce que l'État a mis comme subvention, on est autour de précisément à 17 milliards 680 millions de francs CFA. Vous comprenez là que sur chaque sac qui devait revenir à 31 000 francs, l'État a subventionné à hauteur de 13 000 francs.
Les arguments du gouvernement n'emportent pas l'adhésion de Edo Komi du mouvement Martin Luther King, proche du monde paysan togolais.
Il est vrai que les matières premières ont augmenté, ont connu une flambée. Mais le Togo est un pays qui produit les matières là qui entrent dans la fabrication de l'engrais. Le quinquennat, le phosphate, servent à produire l'engrais. Et un sac d'engrais à 18 000 francs, c'est pas dans un pays comme le Togo. Une augmentation de presque 50%. Non mais c'est inadmissible. Personne ne comprend. Le gouvernement doit revoir la copie.
Le Togo, pays producteur du phosphate, ne dispose pas d'une usine de transformation qui pourrait produire de l'engrais pour le pays. Il en est réduit à exporter la matière première et en importer l'engrais. Sur les prix pratiqués dans les autres pays, le gouvernement précise que la comparaison ne tient pas. Kolani Diendog, du ministère en charge de l'agriculture.
Il ne faut pas également faire des comparaisons inutiles avec les pays voisins. Selon les données de l'IFDC, au Burkina, le sac de NPK de 50 kg est à 35 000 francs. Au Ghana, ça tourne autour de 30 000 francs. Au Bénin, c'est à 14 000.
N'empêche que pour les agriculteurs, 18 000 francs pour un sac d'engrais au Togo ne font pas l'affaire. Innocent Soussou, producteur agricole dans la préfecture des Lacs, redoute que certains agriculteurs ne délaissent la culture des produits vivriers.
Augmenter de manière substantielle les prix des intrants, c'est en quelque sorte tuer la productivité au niveau des paysans.
Ce sera donc au détriment des produits céréaliers de première nécessité comme le maïs, le mil ou le sorgho. Ce qui n'est pas une bonne chose en ces périodes de vie chère dans le pays. Kossi Wussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM. Le Rwanda abrite depuis hier un forum mondial sur les énergies durables. Les participants ont invité les pays industrialisés à accroître l'aide à l'Afrique pour lutter contre le changement climatique, car les pays africains contribuent entre 5 à 20% à la pollution atmosphérique mondiale. Les précisions avec Jean Damasen Manishimwe à Kigali.
Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes et à un coût abordable, tel est le 7e objectif des objectifs de développement durable. Cette conférence de 3 jours à Kigali examine l'état d'avancement de la réalisation de cet objectif dans le monde et ce qui doit être fait pour qu'il soit atteint pas plus tard que 2030. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a fait observer que la pandémie de Covid-19 a entravé le rythme que le monde avait atteint pour atteindre cet objectif, car jusqu'à l'heure actuelle, environ 40% de la population en Afrique n'a pas accès à l'électricité. En intégrant les énergies durables dans les programmes de relance après la pandémie, nous pouvons accélérer la transition vers les énergies propres. Mais cette transition doit être juste et équitable. Ça signifie que cela doit aller de pair avec les priorités et les aspirations de développement de l'Afrique pour s'assurer que personne ne soit laissé en arrière. L'Afrique ne peut pas porter le fardeau à elle seule, étant donné que ses émissions n'ont pas suscité l'urgence climatique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a par l'occasion invité tous les pays à adopter l'usage des énergies renouvelables et non polluantes, car non seulement ça préserve la planète, mais l'usage génère trois fois plus d'emplois que les énergies polluantes. Pour limiter la température mondiale à 1,5 degré, il faut accélérer l'utilisation des énergies renouvelables et transformer la production énergétique. Les pays développés doivent honorer leurs promesses et débloquer 100 milliards de dollars américains chaque année pour les effets du climat dans les pays en voie de développement. Les financements privés sur les combustibles fossiles doivent s'arrêter au profit des énergies renouvelables. Environ 1500 personnes en provenance d'un peu partout dans le monde participent physiquement à ce forum mondial de Kigali et 500 autres virtuellement. C'est la première fois qu'un forum de ce genre est organisé sur le continent africain. Jean-Thomasène Manichimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir du G5 Sahel après la sortie du Mali. Les autorités de transition mettent en cause une instrumentalisation par un État extra-régional empêchant le Mali d'assurer la présidence tournante du G5. Cette organisation régionale de lutte contre le terrorisme était déjà confrontée à de sérieux problèmes opérationnels et de financement. Le G5 Sahel pourra-t-il survivre après le départ du Mali? Quelle approche de coopération dans la lutte contre le terrorisme au Sahel? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le gouvernement américain a tenu hier une audience publique au Congrès sur les ovnis, les objets volants non identifiés, pour la première fois depuis plus de 50 ans, afin d'examiner les menaces pour la sécurité nationale qui pourraient venir non pas seulement d'éventuels extraterrestres, mais de puissances étrangères ou entités hostiles aux États-Unis. Le Pentagone utilise le terme de « phénomène aérien non identifié » pour décrire ces engins volants. Nani Talani revient sur les points forts de l'audience.
L'audience s'est focalisée sur d'éventuels adversaires étrangers développant des technologies secrètes qui pourraient être interprétées comme des ovnis et s'avérer dangereuses pour les États-Unis. Un nombre croissant d'objets volants non identifiés sont signalés dans le ciel depuis 20 ans, a indiqué un responsable du Pentagone devant les élus du Congrès, sans aller jusqu'à confirmer la présence de vie extraterrestre. Scott Bray, directeur adjoint du renseignement naval, attribue cette hausse aux efforts considérables de l'armée américaine consacrés à déstigmatiser l'acte de signaler ces observations et aux progrès technologiques.
Ce que vous voyez ici est un avion qui opère dans un champ d'entraînement de la marine américaine et qui a observé un objet sphérique dans cette zone. Et pendant qu'ils le survolaient, ils ont pris une vidéo. Vous voyez que l'objet semble réfléchissant dans cette vidéo et il passe rapidement devant le cockpit de l'avion.
Il tente aussi de ne plus stigmatiser le problème tout en démontrant le défi en restant très prudent dans ce qu'il dit.
Mais je mettrai en garde, je dirais simplement qu'il y a un certain nombre d'événements pour lesquels nous n'avons pas d'explication, pour lesquels il y en a une petite poignée, pour lesquels il y a des caractéristiques de vol ou une gestion de la signature que nous ne pouvons pas expliquer avec les données que nous avons.
Les législateurs des deux partis soutiennent que les ovnis sont un problème de sécurité nationale. Les élus ont manifesté leur inquiétude sur la menace de ces objets volants non identifiés sur la sécurité nationale, venant non pas d'extraterrestres, mais de potentiels adversaires sur Terre. C'est Adam Schiff, élu démocrate, qui a directement posé la question.
Et si vous êtes en mesure de répondre à cette question dans ce contexte, avons-nous connaissance d'un adversaire étranger capable de déplacer des objets sans aucun moyen de propulsion discernable?
Dans sa réponse, Scott Bray a tenté de rassurer en ces termes.
Je dirais, sans moyen de propulsion discernable, je dirais que nous n'avons pas connaissance d'un adversaire capable de déplacer un objet sans moyen de propulsion discernable.
L'audience a eu lieu près d'un an après qu'un rapport du gouvernement a documenté plus de 140 cas de phénomènes aériens non identifiés, ou UAP, que des pilotes militaires américains ont observés depuis 2004. Ronald Moultrie, ce secrétaire à la Défense pour le renseignement, a déclaré que le Pentagone tente aussi de cerner le problème et d'encourager les pilotes et d'autres militaires à signaler tout ce qu'ils voient d'inhabituel.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Michel Joseph. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.